Je le disais avant la pause, on est le 12 novembre. Fin de l'année va arriver plus rapidement qu'on pense. Marc-Antoine Reid est là avec nous, notre planificateur financier, pour nous donner d'ailleurs quelques trucs là, de planification de fin d'année comme ça. Là. Comment tu vas?
Ça va très bien, vous trois?
Ah oui, ça va bien. Bon, toujours le fun, jaser oui, finance
ben oui,
avec
aussi,
toi.
J'aime ça. J'aime ça, la semaine est entamée, mais on est encore en début de semaine. Puis ça part bien les choses.
C'est vrai.
Toujours le fun de venir vous voir. Puis comme tu le mentionnais, le temps passe vite, hein? Toujours plus vite qu'on pense. Puis il reste quoi, un peu plus de 6 semaines à l'année?
Puis là, on parle vraiment de... Parce que tu sais, des fois, tu as comme planification année fiscale ou pas. Là, on parle vraiment de l'année du calendrier.
Exact, là. C'est ouais. Ça. Il y a des choses qu'on se doit de faire si c'est avantageux pour nous avant le 31 décembre. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler 6 semaines avant la fin de l'année.
Se donner le temps un peu.
Ben oui, c'est ça. Si vous vous sentez interpellé ou si vous pensez qu'il y a des choses à vérifier dans votre dossier, ça vous laisse le temps de contacter votre planificateur ou un planificateur financier puis voir si ça s'applique à votre situation. Puis, si vous pouvez vous enrichir. Peut-être un petit point d'intérêt que j'ai pas dit que j'allais parler, mais revenir sur les élections. La semaine dernière, on a parlé des marchés puis les élections. Bon, la victoire de Trump, qui était en avance dans les sondages, mais qui est sorti finalement plus fort, là, peut-être un peu qu'anticipé. Puis les marchés financiers, je vous mentionnais qu'ils anticipaient ça, mais il faut croire qu'il restait encore un peu de punch au marché financier, puis que définitivement, d'un point de vue des investisseurs, ben, la nomination de Trump a fait des heureux. Puis s'il y en a qui sont malheureux de ça, même si on est un peu à distance, ben vous pouvez peut-être ouvrir vos relevés de portefeuille ou aller voir dans vos accès en ligne, parce qu'à date, il y a eu un effet positif.
J'allais te demander, depuis les résultats des élections du côté des États-Unis, j'ai eu un petit bump là, dans mes REER.
Exact, c'est ça. Donc, très grosse réaction là, du côté américain principalement. Le marché canadien, on est proche aussi, là, ça a été positif, mais les indices américains ont fortement progressé le mercredi. Et ça va bien depuis. Puis du point de vue du Canada, ça va bien aussi. À l'internet, tout est positif. Là, l'international, un petit peu moins. Il y a des craintes là, à cause des potentiels tarifs douaniers là, qu'on va voir. Là, on va voir à quelle vitesse. Puis s'il le fait peut-être plus en début d'année, là, quand il va le pouvoir.
Durant la soirée électorale, ça nous a même permis de dire à l'avance que Donald Trump allait gagner parce que Farnell suivait ça, les indices boursiers. Et là, tu sais, quand Trump s'est mis... Ouais. À prendre contrôle des états pivots, on voyait déjà des augmentations.
Exact.
Ça a été vraiment là, une concordance.
Je l'ai mentionné à quelques personnes. Si jamais ceux qui s'intéressent un petit peu plus à ça, quand il y a des nouvelles importantes, vous pouvez regarder les contrats à terme. Donc, ça, en anglais, ça s'appelle futures. Donc, vous googlez Stock Market Futures, puis vous voyez la réaction à l'avance du contrat à terme du marché financier. Ça fait que vous savez à l'avance si le marché financier va ouvrir à la hausse, donc on voyait ça progresser. Donc, c'est une belle façon d'avoir une vue de qu'est-ce qui va arriver dans le lendemain ou peut-être de l'impact d'une nouvelle, savoir si ça va être positif ou négatif. Vous pouvez le voir à l'avance de cette façon-là, là, du point de vue des marchés financiers. Fait que je reviens à mes petits trucs de fin d'année. Le premier que je vous mentionnerai, bon, c'est sûr que depuis le 1er octobre 2022, là, les marchés financiers sont très bons et très généreux. Vous pouvez avoir dans vos portefeuilles, dans des comptes imposables, des titres qui ont moins bien fait, des titres à perte. Fait que sans donner d'opinion, je vous mentionne, par exemple, si vous aviez le titre de BRP, ça a été plus difficile, les ventes de motoneige, puis tout ça, les gens coupent un peu là-dessus. Donc, vous pourriez envisager, si vous êtes correct avec ne plus avoir cette position-là, de vendre votre titre avant la fin de l'année, puis déclencher une perte en capital. Donc, la perte en capital va venir s'opposer à des gains que vous auriez faits. Et donc, canceller l'impact fiscal ou l'impôt qu'il y aurait sur un gain. Mais vous pouvez aussi la réutiliser pour 3 années précédentes si vous avez eu un gain dans les années précédentes ou la garder en banque là, une fois qu'elle est déduite là, contre les gains de l'année pour les années subséquentes. Fait qu'à titre d'exemple, quelqu'un qui aurait une perte de 10 000 $ sur une position dans un compte imposable qui la vend, s'il gagne, j'arrondis les chiffres, là, entre 56 et 103 000 bien, il sauverait 1800 $ d'impôts.
Fait que moi, mettons que j'ai fait ça sur une application là, de placer de l'argent puis ça n'a pas bien été, là, je pourrais sortir les papiers. Puis,
Exact, tu pourrais vendre le titre, à condition que ça ne soit pas dans un CELI, par contre. Donc, si c'est un compte non enregistré, effectivement, tu pourrais vendre le titre Puis là, ben, c'est opposable juste contre des gains. Ça fait qu'il faudrait, faudrait que tu aies fait des bons coups aussi.
Oh. On oublie ça! Ouais.
Il y a juste le mauvais coup qu'il veut vendre.
Deuxième point, je vais un petit peu plus loin là-dessus puisque je parle de gains, pertes et gains en capital. Il y a eu des nouvelles règles avec le dernier budget. Là, si votre gain capital est plus que 250 000, le taux d'imposition augmente passé le 250 000 de gain. Donc, c'est sûr que ça peut s'appliquer à certaines personnes. Mettons que Jeff, tu avais un bloc appartement et tu as prévu le vendre l'année prochaine, mm-hmm. puis que tu avais des titres en situation de gain, tu sais, que tu penses ne pas garder encore trop longtemps. C'est peut-être un incitatif pour le faire avant la fin de l'année. Faut pas que ça soit la même année que ton gros gain, là, tu sais,
ouais,
faut pas que
tu en aies
plus. Ou l'inverse, si c'était cette année, est-ce que tu peux te permettre d'attendre au mois de janvier avant le titre que tu voudrais vendre pour lequel il y a un gain ou le fond, là? Fait que, petit point. Sinon, ben c'est l'IAP. Ça s'applique à beaucoup de gens, particulièrement les jeunes. Je vous l'ai déjà mentionné, il y a deux choses à retenir là-dessus. S'il est déjà ouvert puis vous n'y avez pas cotisé ou peu cotisé, sachez qu'on peut juste rattraper 8 000 du passé. Fait que si vous l'avez ouvert l'année mm-hmm. dernière, vous n'avez pas cotisé encore ou très peu cotisé, ben il faut peut-être avantageux de cotiser pour vous avant la fin de l'année
okay.
pour être sûr de le maximiser. Mettons, si vous avez un achat de prévu okay. dans 3 ans de votre propriété. Ou l'autre chose auquel je viens de faire allusion, s'il n'est pas ouvert, faut l'ouvrir pour que les droits commencent à s'accumuler. Fait qu'au minimum, l'ouvrir cette année, puis si vous n'avez pas encore les sous, si votre achat est dans les 5 prochaines années, bien, mm-hmm. vous cotiserez l'année prochaine, mais vous allez avoir les droits pour l'année 2024, là, le 8 000 $ qui est cotisable. Et on se rappelle, ça donne de bonnes déductions. C'est déductible fiscalement et il n'y a pas d'impôt quand vous sortez pour l'achat d'une première propriété. Ça fait que c'est un bel outil pour aider à l'achat d'une première propriété.
Marc-Antoine, quand tu dis que tu peux l'ouvrir puis tu n'as peut-être pas les sous en ce moment,
ouais.
Tu peux-tu vraiment l'ouvrir mais l'avoir à zéro?
Exact, c'est ça.
Il n'y a pas un minimum?
Plusieurs l'année dernière. À titre d'exemple, dans ma clientèle, j'ai des futurs médecins. Okay. Donc, ils vont générer des bons revenus, mais ils sont encore aux études. Quand ils me disent « Oui, il y a des bonnes chances que j'achète dans les 5 prochaines années », je leur ai ouvert le CELIAP l'année dernière.
Mais tu n'as même pas besoin de mettre une base.
J'ai pas déposé. Donc okay. Là, il a accumulé le 8 000 $ de droits cette année. Là, je suis rendu au stade de prendre rendez-vous avec eux d'ici la fin de l'année. Puis là, cette année, je vais leur faire cotiser le 8 000 $ de l'année dernière.
Okay.
Parce que j'ai juste le droit de rattraper 8 000. Donc,
ouais, c'est ça.
Fait que un médecin, il est sur le bord de générer des revenus. On va le prendre souvent pour plusieurs. C'est à marge mm-hmm. de crédit étudiante, mais ça va être intéressant dans leur cas de faire.
Puis l'avantage, c'est vraiment qu'on peut se reprendre un coup que mon revenu a augmenté.
Exact. On garde la déduction. Mm-hmm. Je pense que c'est à ça que tu faisais allusion.
Oui,
la déduction fiscale, on ne l'utiliserait pas maintenant, puis on va la garder pour plus tard. Même les médecins qui sont résidents, ils gagnent un revenu, mais beaucoup moins que ce qu'ils vont faire. Mm-hmm. Fait que je leur conseille de garder la déduction pour le début de leur carrière et pas le déduire pendant qu'ils sont mm-hmm. résidents, mettons qu'ils gagnent 55-60 000 quand ils sont résidents. Donc, au petit truc, sinon les régimes enregistrés d'épargne études, j'en vends souvent les mérites. C'est de l'argent gratuit si vous voulez aider les enfants à des programmes d'études postsecondaires. Mais ça fonctionne par année fiscale, par année civile. Et on a droit on a 2 500 $ de droits qui s'accumulent par année, mais on a juste le droit de rattraper 2 500 qu'on n'aurait pas maximisé du passé.
Mm-hmm.
Donc, si vous êtes en mode rattrapage, ou sinon, faites-vous l'expliquer, parce que ça vaut souvent la peine d'être en mode rattrapage une fois qu'on a bien compris. Bien là, à ce moment-là, on a intérêt à le faire avant la fin de l'année, parce que sinon, l'année prochaine, il y a un rattrapage qu'on ne peut pas faire. Donc, en gros, si vous n'avez pas commencé, faites-vous l'expliquer. Si votre enfant est dans l'année de son 11e anniversaire, là, après ça, vous ne pourrez pas le maximiser si jamais vous vouliez le faire à cause des règles que je viens de mentionner. Donc, régime enregistré d'épargne études à regarder d'ici la fin de l'année. Sinon, quelques points un petit peu plus rapides. On est souvent plus sensibilisé. On ne devrait pas être comme ça, mais on devrait être sensibilisé à l'année longue. Mais le temps des fêtes, c'est souvent une occasion de penser aux gens, aux bonnes œuvres ou à des gens qui sont moins favorisés. Puis tout ça, on y pense un peu plus. Il y a un intérêt à faire des dons d'ici la fin de l'année,
oui.
Particulièrement le premier 200 $ de dons, le taux de crédit est moins élevé, puis passer 200 $ il est plus élevé. Donc, si vous avez déjà fait un peu au courant de l'année, mm-hmm. de le faire avant la fin de l'année, il y a deux bénéfices. Premièrement, vous êtes dans le maximum des crédits d'impôt. Et deuxièmement, vous êtes plus proche du retour d'impôt. T'sais, si vous le faites en décembre, en avril, vous avez récupéré les sous. Si vous le faites au mois de janvier, ça va prendre un an et quatre mois avant d'avoir le retour d'impôt. Et deux petits points aussi, deux groupes pour lesquels je vous encourage à vous penser sur vos choses dans notre clientèle. On leur parle tous là, avant la fin de l'année. Les retraités. Une des erreurs que les retraités font souvent, qui est parfois alimentée, c'est de penser, de dire « Hey, je ne paierai pas beaucoup d'impôts cette année. » Mais en réalité, le meilleur plan financier pour quelqu'un, c'est celui qui nivelle le taux d'imposition tout au long de la retraite. Puis si c'est un couple, idéalement sur les deux têtes du couple.
OK.
Fait que de sauver cette année, mais de se retrouver dans une tranche d'impôt plus élevée plus tard quand on va retirer l'argent, c'est pas bon. Ça donne une moins longue longévité à l'argent.
Donc, vaut mieux être stratégique puis comme se garder là, le même revenu année après année?
Exact. Donc, dans certains cas, quand je les rencontre à la fin de l'année, des fois, on force un revenu imposable. Okay. Donc, sortir ouais. un retrait REER pour dire, hey, écoute, cette année, t'as presque pas eu... par exemple, j'ai rencontré une dame qui n'a pas travaillé beaucoup cette année. Bon, on a sorti 15 000 de ses REER. Elle ne paiera pas d'impôt là-dessus.
Ouais.
Donc, pour l'année qui vient de finir, on planifie le décaissement pour l'année okay. qui commence aussi. C'est un bon pont entre terminer l'année. Puis les entrepreneurs, là, il y a beaucoup de choses à faire. Fait que, partiellement au niveau de la rémunération. Donc, planifier la rémunération de l'année prochaine, mais un peu comme je viens de parler avec mon retraité, la rémunération de cette année, est-ce qu'on devrait s'en sortir un petit peu plus sous forme de salaire ou de dividende? Fait qu'il y a des choses particulières à faire pour les entrepreneurs. Puis aussi, à l'occasion, c'est pas à moi de prendre des décisions d'investissement, mais on en jase à l'occasion avec les clients s'il y a des dépenses amortissables. Mettons que vous êtes travailleur autonome puis vous voulez changer d'auto, il y a un intérêt à la changer au mois de décembre puis l'amortir à moitié pour l'année qui vient de finir plutôt que la faire au mois de janvier. Des petits trucs, des fois, qui peuvent apparaître comme ça. Donc, deux groupes, le retraité ou entrepreneur, où est-ce que c'est encore plus important de se pencher sur votre dossier? Si votre conseiller le fait pas, ben prenez les devants, appelez-le lui ou cancellez-le. Regardez si vous pouvez avoir mieux ailleurs, parce que je dis toujours, moi, si vous pouvez faire plus avec la même... Qui ne veut pas faire plus avec la même quantité d'efforts?
Des fois, c'est juste des petits trucs, puis ça améliore, puis c'est positif pour ton portefeuille.
Moi, je dis souvent, s'il y a des sous à terre, puis t'es sûr que ça appartient à personne, il est là. Tu te penches, puis tu le ramasses.
Tu le ramasses. Absolument. Si on a des questions d'ailleurs, ou si on est mal conseillé, ou si on n'est pas conseillé pendant tout, mais on a des questions pour toi et ton équipe.
Facile à rejoindre. On a un numéro sans frais qui illustre bien ce qu'on fait comme travail, c'est-à-dire des plans financiers pour nos clients. 833 ton plan. Sinon, vous pouvez nous googler, équipe Marc-Antoine Reid, REID, et vous allez tomber sur notre site Internet où vous pouvez prendre contact avec nous ou réécouter la chronique sur votre site qui est vraiment bien faite.
BLVD.fm. Merci, Marc-Antoine.
Merci à vous trois.
Merci.
On se parle la semaine prochaine.
Oui.
Bonne semaine.
Salut.
Des nouvelles de Jelly Roll, là, ça a été annoncé à 9h. Il y avait une annonce de tournée canadienne, puis un show près de chez nous. Hein?
Yes, il y aura un show au Centre Vidéotron de Jelly Roll, la tournée Beautifully Broken du Grand Nord, qu'il l'appelle, le 26 mars 2025. C'est un mercredi, avec en première partie Josh Ross, que j'aime beaucoup. Que certains ont vu en première partie de Nickelback lors du dernier passage du groupe au Centre Vidéotron. Il était à l'Asso aussi l'été passé. Et aussi, ça, je ne connais pas, mais Savannah Dexter and Brabo Gator.
Brabo Gator. Je connais pas non plus.
Non, mais nom est malade.
Pas un spécialiste de country. Ah,
avec un nom de même, par exemple, t'as pas le choix de donner un bon
show. On demandera à l'ami Gab Marino de voir ce qu'il pense de ces artistes-là. Mais voilà, c'est déjà fait. C'est quoi la date encore?
26 mars, mercredi.
Centre Vidéotron,
tournée Beautifully Broken du Grand Nord de Jelly Roll.
Et voilà, breaking news. Jusqu'à 10h.